RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Ainsi que Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Loïc Bonnet, qui est président et fondateur de Dreamyacht Group. Bonjour Loïc.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes né en 1960 dans une très jolie ville qui s'appelle Nantes. Vous êtes diplômé de Sciences Po et votre premier job c'était journaliste. Journaliste chez qui ?
Au Journal du Dimanche. J'avais comme patron Étienne Moujotte. C'était en 1982.
C'était... Ah oui. Et ensuite donc vous êtes passé de l'autre côté, hein, directeur de la communication. Puis après vous avez créé aussi une agence. Racontez-nous.
Oui, j'ai été dans les années 80, fin des années 80, comme pas mal de journalistes, je suis passé effectivement côté communication.
Oui.
Et puis, après quelques années, j'ai créé une agence qui a eu comme client une société de location de bateaux.
Ah, d'accord.
C'est là où j'ai attrapé le virus. J'ai eu l'occasion de faire partie d'un tour de table pour racheter cette société qui était un de mes clients.
Oui.
Et bah, j'ai abandonné du jour au lendemain mes activités parce que je trouvais ça intéressant. Ouais. C'était un métier neuf.
Sur un secteur sympathique aussi pour
toi. Sur un secteur sympathique, c'était vraiment l'époque, c'était vraiment les prémices. C'était pas encore du tourisme, ça commençait quoi.
Ouais, c'est en quelle année ça ? C'était en
92.
92 quoi.
Ah non, je suis pas tout jeune.
Alors après, vous avez créé donc Dreamyacht Charter, qui est devenu Dreamyacht Group. Alors racontez-nous un peu les métiers, parce qu'aujourd'hui, Loïc, vous êtes numéro un mondial.
Oui, on est numéro un mondial. On est le plus gros client des chantiers français. De tous, hein, puisqu'on commande nos bateaux dans tous les grands chantiers français. On fait deux métiers principaux. On fait d'une part de la vente de bateaux, et ces bateaux, on les exploite, on les loue, on les exploite avec des équipages. Donc les investisseurs bénéficient des revenus issus de la location des bateaux et de semaines de jouissance. Donc c'est pas du timeshare, ils sont vraiment propriétaires de leur bateau, mais c'est un bon investissement pour quelqu'un qui aime le bateau comme loisir.
Oui, c'est vrai. Voilà,
ça permet de... L'exploitation va financer la moitié de son bateau, et ça permet surtout, le principal intérêt, c'est de pouvoir faire du bateau à peu près partout dans le monde, puisqu'on a 45 sites dans une trentaine de pays, et sans avoir tous les aléas de la propriété de bateau. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un bateau, vous allez en faire toujours au même endroit.
Mmh. Et toujours sur le même bateau.
Toujours sur le même bateau. Et quand vous arrivez, il y a toujours un truc qui ne va pas. Là, vous décidez d'aller à Tahiti, vous arrivez à Tahiti, le bateau est prêt, vous faites votre semaine, vos deux semaines, et puis trois mois après, vous voulez aller en Corse, vous prenez le bateau, etc. Vraiment aucun souci.
Il y a une vraie notion de service. C'est une ETI, combien de chiffre d'affaires aujourd'hui pour combien de collaborateurs en période normale, j'allais dire ?
Alors, cette année, on va retrouver notre niveau de 2019, parce qu'on a été fortement impacté par la Covid. Donc, on va faire environ 100, un peu moins de 170 millions, et on faisait 175 en 2019. On est pratiquement au même niveau, et on a environ 700 à 800 collaborateurs, dont 600, un peu plus de 600 permanents.
Permanents, quoi. Fanny ? Vous êtes cliente ou pas de la société de Loïc ou pas encore ?
Alors non, moi malheureusement je pratique plutôt les sports de terre que les sports de mer, mais pas dit que je prenne pas le large, un de ces quatre. Moi je suis admirative toujours de voir qu'on sait fabriquer des numéros 1 mondiaux à partir de la France, donc impressionnée par le parcours, en plus une création, une fondation. J'ai envie de vous demander quels ont été les drivers vraiment de cette croissance. Est-ce que ça a été la demande sociétale ? Est-ce que ça a été la French Touch, le design ? Est-ce que ça a été le concept même de passer de la vente à la location ? Comment vous expliquez cette croissance rapide ?
Alors, bon, moi, je suis toujours... j'estime qu'il y a toujours une part de chance.
Donc il y a un peu de boulot,
mais il y a une part de chance et je dirais d'être capable d'humer l'air du temps. Et donc clairement, il y a une évolution sociétale. Mmh. On est arrivé au bon moment. Le mérite que je reconnais à Dreamyacht et que je me reconnais finalement, c'est d'avoir professionnalisé tout ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment démocratiser l'accès à la mer, parce que la mer était un monde, les yacht clubs par exemple, c'est un univers où les gens sont entre soi, c'est je crois qu'il y a...
Ça a l'air très fermé, quoi.
Hein. Un milieu très fermé, tout le reste c'est de la rigolade à côté, et les gens finalement... qui sont les pratiquants de la voile, même si tous ne sont pas fortunés, ils aiment bien montrer qu'ils sont différents, etc. Et que c'est pas pour tout le monde.
Voilà. La porte n'est pas forcément spontanément ouverte.
Exactement. Donc, Rémy Haute s'est attaché à ouvrir tout ça, à faire exploser les barrières, et en créant des produits qui aujourd'hui fonctionnent très bien, qui sont les... On fait des croisières, ce qu'on appelle les croisières à la cabine. Donc, plutôt que de louer un bateau, vous réservez une cabine sur un grand catamaran où il y a 6 à 8 cabines, mais vous avez un équipage, donc en fait, c'est comme un paquebot, sauf que vous êtes sur un bateau à voile, avec tout l'environnement, nature, enfin, c'est...
Tous les services.
Tous les services. Hein. On a racheté une plateforme de location qui s'appelle Samboat, il y a quelques années, qui permet à tout un chacun de louer un Zodiac pour quelques heures, comme un méga yacht. Mmh. Donc on parle de budget de quelques centaines d'euros à... plusieurs dizaines de milliers.
Au salaire mensuel de Ludovic Beribos. Ouais.
Voilà. Je crois que le principal mérite de Dream Yacht, c'est d'avoir été capable de transformer des tendances sociétales en offres structurées et être capable de délivrer un standard de qualité partout dans le monde. Tout n'est pas parfait, mais... globalement, il y avait des vrais challenges. Par exemple, être capable de le faire à Cuba.
Oui, qui était de service identique entre Cuba.
C'est-à-dire qu'à Cuba, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir nos salariés. On a des salariés qui nous sont fournis par le gouvernement.
Et vous n'avez pas le choix.
On n'a pas le choix. Alors, le seul avantage d'un pays communiste, c'est quand un salarié est mauvais, on dit on n'en veut plus, on n'a pas d'indemnité à payer, on s'en donne à l'autre.
Bon. Notez, Ludovic, notez. Oui.
Donc la qualité de l'exécution, et puis vous disiez la demande sociétale. Alors évidemment, je vais vous poser une question qui gratte un peu plus. Est-ce que cette demande sociétale, elle évolue pas aujourd'hui? Est-ce que les enjeux, en fait, notamment carbone, les enjeux de transition climatique, j'imagine, évidemment, vous les anticipez. Comment vous voyez l'évolution à 10 ans? Quelles sont les transformations, en fait, que vous êtes probablement en train de mettre en place pour vous adapter à cette évolution de la demande?
Alors, c'est vraiment la question du moment. Clairement, Dream Yacht a bénéficié encore d'un a priori favorable, puisque nous, on fait de la voile. Oui. Donc, on a cette image de loisir respectueux de l'environnement.
C'est pas polluant, voilà.
C'est pas polluant. Bon. Oui et non, quand même.
Donc, bien sûr.
On est engagé effectivement dans une démarche aujourd'hui de réduction de l'empreinte carbone qui est à plusieurs niveaux. Un, et là on est tributaire des constructeurs, que les bateaux passent en mode électrique par exemple, mais pas que. Qu'il y ait des systèmes de réservoirs d'eau potable qui évitent de devoir charger des bouteilles en plastique pour les croisières, qui n'est plus du tout de rejet à la mer de ce qu'on appelle les eaux grises, eaux noires, avec des systèmes de traitement sur le bateau. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place.
Oui.
Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la formation de nos équipes à avoir aussi des comportements plus éco-responsables.
Oui.
Par exemple, c'est des petits détails, mais moi, je passe ma vie... elle sait, à tourner. En fait, ma méthode de
200,
management,
200 jours
c'est
par
là,
an.
Depuis le Covid, je suis devenu raisonnable, je fais 200 jours, mais avant le Covid, pendant 10 ans, je voyageais 300 jours par an.
Oui, bah oui.
Donc je pouvais être parti un mois et je tournais sans
vous
arrêt.
Vous êtes marié, Loïc, tout va bien
ça m'a coûté... ça m'a coûté deux mariages. Bon. Quand on tourne sur les bases, on voit, par exemple, on voit qu'on continue à dépenser des tonnes d'eau pour un bateau, alors qu'il y a des choses comme ça, les produits qu'on utilise pour laver.
Ouais.
Donc, on est en train de, aujourd'hui, on est dans une démarche, on est en train de tout recenser, chaque acte, de façon à pouvoir comment on peut améliorer. Mais c'est des petites choses, mais l'accumulation des améliorations de petites choses fait qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Et puis, le dernier sujet... Et c'est pas le moindre.
La façon de voyager,
C'est l'éducation des clients. Parce que, je vous donne un exemple. Vous avez des clients américains. C'est 40% de notre business. Client américain, lui, ce qu'il veut, c'est la clim. réglé à 16, 17, 18 au maximum, et des couvertures la nuit. Hein, c'est vrai qu'on est aux Antilles, il fait chaud, on met la clim, et quand même à 17, 18, on a besoin d'une couverture. Bon, leur expliquer que c'est peut-être plus simple une ventilation naturelle, on travaille là-dessus avec les constructeurs, et de ne pas faire tourner un générateur la nuit, ben on n'y est pas, vous voyez. Chacun est encore habitué à son petit confort. Et là, j'ai pris l'exemple des Américains parce que c'est un peu caricatural, mais c'est vrai pour tout le monde. Donc, c'est un gros chantier.
Donc, il faut éduquer le client aussi, quoi.
Maintenant, je dis que c'est mon dernier challenge. Moi, ce que je veux, c'est réussir. Je veux faire de Dreamyacht. Bon, le leader mondial, c'est fait. Mais je veux vraiment faire de Dreamyacht le numéro un vers cette transition écologique.
Oui, donc finalement.
Et puis après, je peux aussi vous parler de, tout simplement de la pollution que représente la présence des bateaux. Je me fais l'avocat du diable, mais il y a un mois, j'étais en Martinique avec le maire du Marin. Pour ceux qui connaissent la Martinique, le Marin, c'est une zone où il y a la marina, c'est la plus grande marina des Antilles, qui a à peu près 1000 places, et plus tous les bateaux qui sont dans des mouillages à côté, qui sont là, certains de façon permanente, des gens qui font des tours du monde, qui restent ancrés. Bon, le maire estime que. La baie doit être un peu nettoyée des bateaux. Il faut que ce soit organisé, etc. Mais il a raison. Donc tout ça, il faut aussi expliquer aux gens que la mer telle qu'ils l'ont conçue, pour eux, c'est symbole de liberté. Mais la liberté doit être organisée. Parce que sinon, c'est plus de la liberté.
Et la liberté de tout le monde.
De tout le monde, voilà.
Fanny ?
Non, mais donc ça veut dire transformer les bateaux, la façon dont on les utilise, mais aussi finalement la façon de voyager. Et ça, on sait que ça prend du temps. Vous avez eu un autre challenge, c'est le Covid, des années de croissance et puis tout d'un coup l'arrêt. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et finalement comment vous avez réussi à tenir dans cette période, j'allais dire, un peu blanche ?
C'est une bonne expérience. Enfin, moi, j'ai eu une expérience particulière parce que l'entreprise, j'ai dû la mettre en conciliation. Donc, ça a duré presque un an.
Procédure de prévention qui est utile.
Voilà, on avait des réunions, c'était des visioconférences avec une centaine de personnes. Donc, on a 25 banques, des avocats de toutes les banques. Je suis devenu... Le petit génie est devenu un mauvais élève.
Oui, c'est ça.
Donc, vous êtes responsable de tout.
C'est ça.
Moi, j'ai beaucoup appris. Hein. Ça m'a coûté très cher capitalistiquement, puisque j'ai été dilué. On a fait une recapitalisation. Mais j'ai beaucoup appris. C'est là aussi que j'ai mesuré l'attachement des salariés à un management qu'ils estimaient légitime. Qui les a jamais abandonnés. C'était un truc, c'était vraiment important. On a quand même réussi, par rapport à d'autres entreprises du tourisme, à bien s'en sortir. Notre chiffre d'affaires est descendu de 175 millions à une centaine en 2000.
Quand même, hein.
Ouais, en 2020. Pourquoi ? Parce qu'on a un avantage par rapport à un hôtel, c'est que les bateaux, on peut les bouger. Et nous, ce qu'on a fait, ça a été un énorme challenge parce que c'était pas facile de bouger des bateaux pendant la période Covid, les frontières étaient fermées, etc. Mais on a en fait déplacé les bateaux vers les zones où il y avait des populations. Par exemple, les Américains ne pouvaient pas voyager, mais rien ne les empêchait de faire du bateau en Floride, aux îles Vierges américaines, à Newport.
Près de chez soi.
Et en Europe, on a fait la même chose. On a doublé, multiplié par 3 notre flotte en France. C'est-à-dire qu'en Corse et sur la Côte d'Azur, en 2020 et 2021... On a fait venir des bateaux de partout.
Idem en Italie. Logistique, ça n'a pas dû être facile. Ça.
C'est énorme challenge. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que l'entreprise, elle a eu quelque chose à faire.
Oui, quelque chose à faire. Ludovic.
Admiratif aussi de votre parcours. Félicitations. Bon, je passe mon permis bientôt, donc futur client.
Louer quand même quelques semaines, même sans permis, ça peut s'arranger.
Allez. Bien volontiers. En tout cas, moi, j'ai appris des choses sur les bateaux. On m'a toujours dit, il y a deux moments de plaisir dans un bateau, au moment où on l'achète et au moment où on le vend. Donc on va parler des coûts. J'aimerais savoir exactement combien coûte l'exploitation d'un bateau lorsqu'on est propriétaire.
Alors, ça dépend quand même de l'utilisation. C'est-à-dire qu'un bateau, ça s'use quand même si on s'en sert pas, il faut être clair. Mais après, il y a l'usure qui est liée, c'est comme un avion, aux heures. Bon, vous avez des coûts incompressibles, les coûts de marina, les coûts d'assurance. Donc là, ça dépend vraiment de la marina. C'est-à-dire que la marina, le prix n'est pas le même...
Et c'est le maire de la ville qui décide du prix ou...
Pas forcément, il y a des marinas privées, des marinas publiques. Mais globalement, si vous êtes dans un port de la Manche, ça ne va pas vous coûter le même prix qu'un port...
Qu'à Saint-Tropez ou alors aux Seychelles.
L'assurance...
Moralité, Allez, vite, tous dans la Manche. Quoi.
Après, la maintenance du bateau, ça dépend de quel type de bateau, bateau à voile, bateau à moteur, des équipements qu'il y a. Mais si vous l'utilisez en bon père de famille, en faisant attention, c'est pas si terrible que ça non plus. Ouais, parce que les moteurs, c'est un nombre d'heures. Il y a le service à faire, il faut le faire. Générateur, pareil, si vous en avez.
En tout cas, c'est organisé le coup.
Si le bateau est bien géré consciencieusement, c'est maîtrisable. Voilà, c'est ça qui est important. Vous pouvez savoir combien ça va vous coûter.
Ludovic.
Ouais, j'avais deux autres questions, notamment une sur le développement de votre entreprise. Quand vous lancez votre projet, quelle est la promesse commerciale, en fait, quel est le type de service que vous souhaitez délivrer? Et ça m'amène à une deuxième question, qui est les canaux de distribution. Quels sont les canaux de distribution qui vous permettent aujourd'hui de toucher vos clients potentiels?
Alors, on fait 50% de nos chiffres d'affaires en direct, 50% via les réseaux. Bon, le direct, on a accéléré la commercialisation en direct pendant ces deux dernières années, là, avec le Covid. On en a profité pour digitaliser plus. On a cette plateforme Samboat qui est un bon driver. C'est de la publicité, c'est du Google Ads.
Vous l'avez créé, Loïc, ou vous l'avez acheté?
Non, Samboat a été créé par deux entrepreneurs et on les a rachetés en 2018.
D'accord. Ludovic?
Oui, et puis j'avais un dernier point. On en a parlé sur la qualité de service dans un environnement international. Quand on est prestataire de service, effectivement, avoir des standards de qualité sur différentes zones, c'est compliqué. Quelles sont les actions, les tips que vous avez mis en place qui permettent justement de garantir d'avoir un niveau de prestation un peu homogène qui est raccroché directement à la marque que vous représentez?
Alors, au-delà des standards qui sont prédéfinis, c'est-à-dire ça va du nombre de serviettes qu'on fournit par semaine, du cheminement du client, son arrivée sur la base, sa prise en charge par le customer service, etc., on attache une très grande importance au retour des clients, au questionnaire de satisfaction. Donc, dès que une base a un trop grand nombre de average, moyen ou amélioré,
mérite d'étudier de près.
On regarde de près, on note l'état technique du bateau, le service aussi pré-location, tout ce qui s'est passé pendant les étapes avant la réservation. Et puis moi, je suis un maniaque des retours clients, donc le week-end...
Zéro défaut, l'objectif c'est zéro défaut.
C'est aussi de trouver des idées. Je trouve que les meilleurs... qui mieux qu'un client...
Peut vous suggérer des choses.
Peut suggérer des choses. Et sur les salons, c'est pareil. Moi, je suis là, sur un salon, j'écoute. Certains disent que je perds du temps, mais je pense pas. Je suis une éponge. Voilà, je suis une éponge, et puis après...
Vous notez, vous avez un petit carnet, là, comme Jean-Claude Trichet, là?
Oui, le soir, je note pas forcément...
Je peux juste vous suggérer une petite idée.
Une tablette.
Vous installez à 7. Ça permettrait... Vous desservez la localisation ou pas?
À 7?
7.
Alors, on n'est pas... Non, parce que c'est pas une zone... Non, mais nous, on a besoin...
Parce que Ludovic a une très jolie maison à 7.
Oui, alors...
plusieurs, déjà.
Je promeux la destination.
Donc, là, 7 est une très belle ville. Merci. Mais pour qu'une location marche, nous, il nous faut idéalement des îles. Donc, on est à Saint-Mandrier, près de Hyères. Pourquoi? Parce qu'il y a Port-Crol, Port-Croix.
Bien sûr, c'est magnifique.
Et puis après, on est de l'autre côté, en Espagne, en Rosès, parce que il y a un environnement aussi avec le parc naturel, etc.
Donc, moralité, Ludovic, il faut créer quelques petites îles en face
peut-être
de
que ça. Que le réchauffement climatique va nous permettre.
Bon, Loïc, pour terminer, côté vin, vous adorez le bon vin. Votre dernier coup de cœur, c'est la bouteille que vous avez mue, c'est laquelle?
Alors, j'ai eu la chance d'aller déjeuner il y a 3 semaines chez Pierre Lurton.
Ah, très bien.
En son château, très bien. Château Margeuse. Donc, on a fait... c'était une journée qui s'est terminée...
Tard. Avec modération, mais tard, quoi.
Ouais, et j'ai vu que c'est de l'entre-deux-mers, il arrive à faire des trucs...
très bon, quoi, et avec un bon rapport qualité-prix. Pour terminer, vous adorez aussi le rugby, est-ce qu'on va la gagner, cette Coupe du Monde, en 2023, selon vous?
Je pense que cette fois, ça va être la bonne.
Ouais.
J'en suis intimement persuadé.
Merci beaucoup, en tout cas, Loïc. Merci également à vous, Fanny et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, ça sera à 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.